Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler d'une page d'histoire de la guerre froide et du renseignement militaire français, c'est-à-dire des missions de liaison, bon, autant le dire tout de suite, de renseignement ou d'espionnage en fait, française en Allemagne de l'Est, j'ai le plaisir de recevoir un acteur et un témoin de cette époque et de ses missions, Roland Pietrini, qui a raconté vos années au sein de la MMFL, la mission militaire française de liaison, où vous êtes resté en poste de 79 à 83, au sein d'un livre sorti il y a quelques mois, Les Sentinelles oubliées, le renseignement humain derrière le rideau de fer, paru aux éditions Pierre de Taillac. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors, évidemment, on va plonger dans ces missions et ce quotidien et ces histoires. C'est ce qui est tout à fait passionnant dans ce livre. C'est la manière dont ça se passait vraiment vu de l'intérieur, au ras du sol. D'ailleurs, pas toujours au ras du sol, parce que ça passait aussi par avion assez régulièrement. Mais enfin, il faut quand même commencer par planter le décor et le cadre, en quelque sorte, bon, politique et diplomatique de la structure dans laquelle vous étiez et des missions que vous avez accomplies, parce qu'on va voir que c'est pas non plus de l'espionnage complètement clandestin, c'est plus subtil et plus intéressant que ça de la manière dont c'était monté et organisé. Donc, je vais le formuler comme ça. Bon, qu'est-ce que les personnels militaires français, dont bon, vous faisiez partie à l'époque, venaient faire, avaient le droit de faire en Allemagne de l'Est, et pourquoi ?
Alors, je pense qu'il faut, replacer les missions dans leur contexte de démarrage, si je puis dire. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, 46 et 47. Les missions ont été créées en 1947. Et à ces instants de très particuliers, il y avait un besoin d'avoir une relation de contact avec notre ancien allié, qui était l'Union soviétique, puisque la guerre a été gagnée par quatre alliés, il ne faut pas l'oublier, qui étaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui s'est rajoutée par la suite, et l'Union soviétique.
La cité avec les trois autres, mais pourquoi pas.
Oui, voilà. Donc, ce besoin de prendre contact et d'avoir des contacts réguliers et officialisés avec le commandement soviétique était dicté tout simplement par les besoins. Nous étions à la fin de la guerre, il y avait des prisonniers qui étaient répartis un peu partout dans certains territoires, des populations qui étaient constamment en mouvement, et les trois autorités occidentales, si je puis dire, alliées, avaient besoin de parler à l'autorité soviétique qui, elle, couvrait l'ensemble de l'Est jusqu'à par la zone d'occupation soviétique qui est devenue par la suite la RDA. Ça, c'était au démarrage, si je puis dire, de cette histoire. La guerre froide est arrivée très très rapidement et on ne va pas décrire ce qu'était la guerre froide au départ parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin dans l'histoire. Mais
la tension. J'aime beaucoup faire des cours d'histoire de troisième, mais c'est peut-être
oui,
pas l'objet.
Oui, voilà. Les tensions se sont accrues entre les alliés occidentaux et l'allié entre guillemets Union soviétique très vite. On se souvient du blocus de Berlin en 1948 qui est arrivé, mais d'ores et déjà, auparavant, les tensions existaient. Donc on a eu un besoin, lorsque le monde soviétique s'est fermé, et ce avant ce que Winston Churchill a appelé le rideau de fer, eh bien, ce besoin est resté en état, mais les missions ont évolué parce qu'il fallait savoir ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Et les missions étaient toutes indiquées pour faire ce genre de travail. Elles étaient d'autant plus indiquées que tout était basé sous la réciprocité et que les Soviétiques avaient aussi des missions dans la zone d'occupation.
Alors,
de l'Ouest.
Là, c'est la légère ambiguïté. Donc, par mission, on ne désigne pas forcément l'objet, mais on désigne une structure, c'est-à-dire, bon, voilà, ce qui était devenu à la base ces petits postes, enfin, en fait, ces moyens de dialogue avec les Soviétiques, en fait, ce sont devenus en quelque sorte des postes avancés de mission pour le coup, c'est-à-dire d'expédition, quoi, voilà. De renseignement du côté soviétique.
Voilà, il était important de savoir ce qui se passait de l'autre côté. Bon, c'est bien. Donc les trois missions américaines, britanniques et françaises se sont retrouvées d'une certaine façon privilégiées par le fait qu'elles pouvaient circuler plus ou moins facilement dans la zone soviétique. Qui est devenue l'Allemagne de l'Est et la RDA.
Alors, justement, quelle était la. Enfin, ce que vous nous avez dit, c'est la réciprocité, etc. Donc, la soviétique en avait aussi. Mais du coup, ça commençait où? Ça s'arrêtait où? Et quelle était exactement la liberté, en quelque sorte, réglementaire dont bénéficiaient les missions?
Alors, au départ, la liberté était assez grande, hein, parce que les accords qui ont été signés, on va dire un mot des accords bilatéraux qui étaient signés, puisque chaque nation a signé un accord bilatéral avec le commandement soviétique. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de zone floue entre la diplomatie et le militaire, puisque nous ne reconnaissions les uns et les autres que le commandement de l'autre, si je puis dire. Les Occidentaux reconnaissant le commandement soviétique, les Soviétiques reconnaissant les différents commandements des trois nations occidentales. Donc en fait, les accords ont été signés en 1947. En ce qui concerne la France, ça a été mi-1947. L'accord a été baptisé accord Noiret-Malinine. En fait, Noiret, c'était le second en termes d'importance du commandant en chef des forces françaises en Allemagne, et Malinine, c'était son homologue pour les forces soviétiques. Cet accord est très simple, hein, il y a une douzaine de, je le décris dans mon livre, de choses très simples, très militaires. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est là où il y a une sorte de miracle, et on va peut-être en parler par la suite, c'est que cet accord tout simple, c'est peut-être parce qu'il était tout simple, a tenu jusqu'à la chute du mur de Berlin.
Alors qu'est-ce qui... Voilà. Puisqu'il n'y en avait pas énormément, j'imagine que vous vous en souvenez encore assez précisément, d'autant que ça déterminait un peu votre quotidien à l'époque. Qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire?
Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait circuler déjà. C'est déjà pas mal. Dans des zones effectivement où il y avait des présences ou pas de zones soviétiques.
Alors c'est intéressant parce que on pouvait circuler. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs. Parfois, on affirme un droit de circuler assez général, et puis en fait, dans les faits concrets, on se retrouve assez régulièrement entravé, ce qui a été votre cas. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous aviez le droit de circuler, ou est-ce que on n'avait pas le droit de vous arrêter?
Alors, c'est là où il y a le flou, hein, bien entendu. Au fur et à mesure de l'histoire de l'évolution, si je puis dire, de ces missions qui sont devenues des éléments importants de renseignement sur les forces adverses, nous ne reconnaissions que le commandement soviétique et non pas le commandement de l'Allemagne de l'Est. Mais cet accord a aussi d'autres avantages, c'est-à-dire qu'il fixe le nombre de personnel. Il ne détermine pas le nombre d'officiers ou sous-officiers. Donc c'est un nombre de personnel qui permet de jouer un petit peu avec les effectifs. Et par la suite, on s'apercevra que cela est extrêmement important.
Vous en aviez combien ?
18. Voilà. 18 personnes étaient autorisées à circuler sur le territoire de ce qui allait devenir la RDA. Encore une fois, il faut bien resituer les choses. Au départ, c'est bien la zone d'occupation soviétique. Et à l'ouest, ce sont bien les zones d'occupation occidentale. Donc,
et ça se passait comment? Parce que, c'est-à-dire, est-ce que c'était des identités de personnes? Ou est-ce que c'était des laissés-passer non nominatifs qu'il fallait présenter? C'est-à-dire, comment ces 18, comment est-ce que ça se passait concrètement?
Alors, c'était des laissés-passer nominatifs, que l'on dénommait propus, ce qui veut dire autorisation, carte d'identité, c'est-à-dire vraiment nominative. Mais le nombre pouvait être plus important. Ce qui était essentiel, c'est le nombre autorisés à circuler en RDA. Donc nous avions 18 laissés-passer, mais on pouvait avoir 24 ou 25 personnels avec une autorisation, mais à condition qu'il n'y ait que 18 qui pouvaient circuler à un moment donné. Donc les autorisations étaient tenues par un organisme qui s'appelait la SRE, alors c'est un peu barbare, ça veut dire Service des Relations Extérieures du commandement soviétique, et en fait il gérait, sur notre demande, le nombre de propusques, c'est-à-dire que pour en avoir tout le temps 18, on retirait à quelqu'un pour redonner à quelqu'un d'autre. Bon, ça permettait d'avoir une capacité à faire reposer les équipages, et on le verra peut-être par la suite, le niveau d'engagement de ces équipages était extrêmement important.
Et vous étiez où ?
Alors, au départ, Potsdam et uniquement Potsdam.
Potsdam, côté soviétique.
Donc, Potsdam, côté soviétique. C'est-à-dire de l'autre côté de la Havel. Berlin-Ouest, Potsdam est tout à fait proche de Berlin. Et puis, au fur et à mesure de la montée des tensions, et au fur et à mesure de la transformation progressive, c'est arrivé très vite, hein, les années 50-55, de cette mission qui, de liaison, en a gardé... On a gardé la justification, mais de plus en plus, c'est devenu un organisme de renseignement. Il a été nécessaire de rapatrier les familles à l'ouest, c'est-à-dire à Berlin-Ouest, et de rapatrier tout ce qui pouvait être sensible dans la préparation des missions à Berlin-Ouest. Donc nous avions un pied à Berlin-Ouest, à Potsdam, avec deux villas qui étaient gérées par les forces soviétiques, avec du personnel mis en place par les forces soviétiques, du personnel d'entretien, jardinier, cuisinier, etc. Et voilà.
Qui pouvaient avoir d'autres occupations.
Qui pouvaient avoir des occupations annexes tout à fait légitimes. Après tout, on était de l'autre côté, et il fallait pas l'oublier. Mais tout ce qui était sensible a été rapatrié à Berlin-Ouest. Nous avions des bâtiments au sein du quartier Napoléon, qui était le centre de garnison des unités françaises à l'époque.
Mais alors justement, c'est peut-être bien de pénétrer un peu dans l'organisation. Donc là, on a compris un peu le cadre réglementaire. Bon, comment ça marchait au sein de cette MMFL ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire ? Comment même c'était structuré, parce que je l'ai déjà dit rapidement tout à l'heure, mais il y avait une partie au sol et une partie aérienne. Voilà, quelles étaient vos tâches, quoi ?
Alors, ces tâches ont évolué au cours des années 70 et se sont fixées véritablement sur la mission renseignement. Il y avait un chef. La tradition voulait que ce soit un colonel de l'armée de l'air. Donc en fait, le commandement et les termes utilisés étaient ensuite des termes, on va parler d'équipage, on va parler d'observateur, étaient des termes de l'armée de l'air. Il y avait deux sections, il y avait une tête, un chef, un adjoint, et puis deux sections relativement séparées, une section que l'on baptisait terre et une section que l'on baptisait air, avec la tête à la tête de chacune des sections, un chef de section. Voilà, on est militaire, hein. il faut mettre de la hiérarchie. Et les missions étaient complémentaires pour les unes et les autres. La section terre s'intéressant plutôt aux objectifs terrestres et la section air s'intéressant beaucoup plus aux objectifs aériens, c'est-à-dire aux bases et à tout ce qui pouvait voler. Mais nous avions des points communs, c'est qu'on ne pouvait pas...
Les deux sections, ce n'étaient pas des sections sur les modes d'observation, c'était des sections sur les objets qu'il fallait observer.
Oui, mais le fait de changer d'objectif, c'est-à-dire d'avoir des objectifs différents, vont forcément faire évoluer les méthodes.
C'est-à-dire c'est plus facile d'aller voir les bases aériennes en avion qu'en voiture.
Ah, alors ça c'est autre chose, parce que quand on dit section air, ça ne veut pas dire que les gens qui étaient à la section terre ne volaient pas. Les gens qui étaient à la section terre pouvaient voler avec deux avions qui nous étaient alloués, un avion d'observation de la LAT qui était un L-19 et un avion d'observation de l'armée de l'air qui était un Maxholtz Broussard.
Ouais, donc ce que je disais, les sections, c'est la section terre, c'est celle qui doit observer les équipements, enfin ce que fait l'armée soviétique d'un point de vue terrestre. Et la section air, c'est celle qui s'occupe des moyens aériens soviétiques.
Absolument, absolument. Et sont complémentaires. Et donc, le fait d'avoir des objectifs différents, évidemment, va faire évoluer les méthodes de recherche du renseignement humain. Les gens de l'armée de l'air ont besoin d'être beaucoup plus statiques. Parce qu'ils attendent que les avions décollent pour pouvoir les photographier, pour pouvoir les mesurer, pour pouvoir les appréhender en ce qui concerne les approches tactiques, etc. Donc la difficulté pour eux est d'atteindre des points d'observation sans se faire repérer, de manière à rester le plus longtemps possible pour observer les avions qui décollent et qui atterrissent. Ou sur des champs de tir pour voir les avions qui... Voilà. Et dans cette mission de l'armée de l'air, il y a le suivi des matériels, l'évolution des matériels, tout ce qui est électronique, les sites radars et les systèmes solaires, qui étaient des systèmes solaires de type fixe. En ce qui concerne la section terre a besoin d'être beaucoup plus mobile, parce qu'elle a besoin d'aller observer sur le terrain les unités qui se déplacent. Or, pour observer des unités qui se déplacent, on n'est pas toujours statique. Il faut soit la suivre, confirmer sa direction, voir comment ça se passe sur le plan tactique, etc. Les franchissements de l'Elbe, voilà. Et l'évolution du matériel. Donc, les sections terres, si je puis dire, sont plus offensives dans leur méthode, parce qu'elles vont parfois au contact, parce qu'elles sont obligées. Pour aller au contact, pour observer, il faut parfois remonter des convois, il faut se mettre près des voies ferrées, il faut observer les trains qui passent, il faut décompter les matériels. Et la section R est plus discrète, au moins dans certaines parties de sa mission, parce qu'elle a besoin de ne pas être repérée le plus longtemps possible pour observer. Donc ça va, de ces deux choses-là, je ne sais pas si on comprend bien, mais la différence des objectifs, la différence des besoins en renseignement va réorienter très fortement les deux missions sur des méthodes de recherche du renseignement différentes.
Alors là, on est sur le cadre général. Si on passe maintenant peut-être un peu plus à votre cas particulier, je ne sais plus si je l'ai dit, mais vous êtes quand même militaire à la base, pas originellement spécialisé dans le renseignement. Vous étiez plutôt dans l'arme blindée. Vous vous occupiez de chars à la base. Alors, voilà, comment est-ce que vous en êtes arrivé vers l'Allemagne, vers la MMFL, et pourquoi ?
Toutes les histoires sont un peu particulières, la mienne l'est aussi. Moi, je me suis engagé très jeune, à 18 ans, et j'ai fait Saumur, une formation de sous-officier.
Donc Saumur, une formation, que c'est l'école de cavalerie.
À l'époque, c'était que l'école de cavalerie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, il y a énormément d'écoles dans Saumur. Mais à l'époque, c'était uniquement et donc j'ai déformé ESOA, école de sous-officier d'active.
Et rappelons que cavalerie, évidemment, ce sont les blindés,
cavalerie, ce sont les chars, il faut le rappeler. Mais le terme est resté, hein, y compris un certain nombre de traditions.
Non, et puis par ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des photos de vous à cheval dans le bouquin. Vous avez choisi d'être cavalier dans tous les sens du terme.
J'ai choisi d'être cavalier dans tous les sens du terme et j'ai eu la chance de monter à cheval très loin pendant de très nombreuses années. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Donc j'ai fait un cursus tout à fait classique. Mais au bout d'un certain temps, j'ai quitté Saumur et je me suis retrouvé au 11e régiment de chasseurs à Berlin, où ma curiosité naturelle, et après tout, il faut bien en avoir pour faire du renseignement, m'a amené à faire des patrouilles zonales le long du mur de Berlin, pour commencer, et puis aller faire des petites incursions à Berlin-Est, dans un cadre très, très particulier des régiments qui étaient en place à Berlin-Ouest. Et je me suis dit, quand même, c'est extraordinaire ce qui se passe de l'autre côté, j'aimerais bien aller plus loin. Donc, j'ai fait en sorte de suivre un cursus un peu particulier, qui était à l'époque le centre d'instruction du renseignement photographique. J'ai observé aussi au cours de cette période que des voitures un peu sales revenaient d'Allemagne de l'Est, que des équipages, alors on n'appelait pas équipage, mais que des gens un peu barbus, un peu mal rasés parfois, franchissaient le poste de garde, qu'on les contrôlait pas, que des voitures parfois étaient gabossées. Moi, ça m'a tout de suite intéressé et je me suis dit, mais qui sont ces gens-là et que font-ils ? Voilà, et j'ai appris que c'était la mission militaire française de liaison auprès du commandement soviétique et que ces gens, au miracle,
contrairement à ce que le nom indique, ne faisaient pas particulièrement de la liaison.
Non, pas vraiment. Et que ces gens, au par miracle, franchissaient un endroit qui s'appelait le pont des espions, qui a été baptisé par la suite pont des espions, qui est en fait le pont de l'amitié entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Est, avec des chicanes. Par la suite, ça donnera un film, le pont des espions, qui c'était le seul, en tout cas visiblement, à franchir de manière régulière ce pont. Et moi, j'ai eu envie de franchir ce pont pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Donc je me suis porté volontaire au cours d'un stage pour aller à la mission militaire française de liaison. Et au miracle, parce que c'était pas évident et il y avait beaucoup d'enquêtes, etc., en 1979, je me suis retrouvé effectivement à la MMFL. Alors, si je peux un peu la préparation, si je puis dire, pour aller dans ce type de mission, elle était extrêmement légère. Tout simplement parce que la mission de renseignement était une mission de renseignement extrêmement aussi particulière. Donc, jeune adjudant, lorsque je suis arrivé, j'ai été formé par les anciens sur tous les domaines dans lesquels nous allions intervenir, et notamment dans les domaines d'emploi, du terrain, des zones d'observation, pourquoi on était là. J'avais au départ, si je puis dire, un vernis technique, savoir identifier des choses basiques, mais il a fallu apprendre très vite, pendant une durée de 6 mois, des choses beaucoup plus particulières et dans des conditions réelles d'observation. Voilà.
Est-ce que vous y étiez parce que, enfin, je sais pas, en tant que cavalier, enfin, que vous aviez une expérience en char, etc., et que du coup, c'est pour ça que, enfin, est-ce que tout le monde était plus ou moins spécialisé dans un type de matériel que...
Alors, c'était, je comprends tout à fait votre question. C'était l'une des forces de la mission. C'est-à-dire que les recruteurs de la mission faisaient un peu, entre guillemets, c'est pas péjoratif, leur marché auprès des différentes directions à l'époque des personnels militaires. On n'appelait pas à cette époque les DRH, mais les directions des personnels, dans des subdivisions d'armes complémentaires et différentes. Il y avait des artilleurs, il y avait des gens du train, il y avait des gens venant de la cavalerie, de l'artillerie, des parachutistes, etc. etc. Et donc ça permettait d'apporter une certaine compétence dans des domaines assez pointus. Un cavalier, forcément, sera beaucoup plus, alors, à l'époque, donc le cavalier issu des chars, des blindés, va regarder d'un œil un petit peu différent les blindés, parce qu'il va rechercher justement quelle est la différence des blindés soviétiques de l'époque avec les nôtres que nous connaissions. Un artilleur va regarder d'une manière plus pointue l'artillerie. Mais au bout d'un certain temps, nous avions une compétence, une pluridisciplinarité, merci, qui permettait d'apporter un œil nouveau, y compris sur des domaines qui n'étaient pas les nôtres au départ. Et ça, c'est extrêmement important et ça a permis de faire évoluer au cours de l'histoire la compétence des gens affectés à la mission. En ce qui concerne l'armée de l'air, juste un mot, le domaine d'emploi de l'armée de l'air était un peu plus réduit dans la mesure où la plupart des gens étaient issus du domaine du renseignement de l'armée de l'air, et notamment de la FATAC. Donc il y avait des pilotes. Notamment les officiers étaient tous pilotes, soit des pilotes de chasse, soit des pilotes de reconnaissance, et les sous-officiers étaient tous des spécialistes du renseignement et d'interprétation photo, donc, ou de l'électronique, donc, ou des langues, parce que le besoin pour l'armée de l'air était aussi d'écouter les conversations entre les pilotes en vol, de manière à pouvoir décoder ce qu'ils font au moment où ils le font et pourquoi ils le font. Donc voilà, donc c'est vraiment une mission avec un très peu de personnel qui amenait une compétence absolument unique à un moment donné. Et c'est ce qu'il c'est je pense il faut souligner cette intelligence, il n'y a pas de jeu de mots, hein, intelligence, c'est le mot britannique pour dire renseignement, cette intelligence du renseignement pour être extrêmement efficace sur le terrain avec très peu de personnel.
Et comment ça s'est passé au début pour vous, prenons comme ça, quel a été votre baptême du feu? Alors après, interprétez-le exactement comme vous voulez, il n'y a pas besoin qu'on vous étire
oui,
dessus.
Oui, parce qu'il n'y a pas de feu.
Non, mais, non, mais en même temps, on peut se sentir au feu sans se faire tirer dessus.
C'est vrai.
Quel est le moment où peut-être vous vous êtes dit, bon bah, là j'y suis, c'est à ça que ça ressemble.
Oui, bah, j'arrivais dans cette mission avec beaucoup, beaucoup d'espoir et une motivation extrêmement importante, et ça n'a pas été inutile. Ma première mission, ça a été ma première sortie avec un équipage très vite. Je suis arrivé au mois d'août, une semaine après, j'étais déjà sur le terrain, mais évidemment comme pot de fleurs, si je puis dire, hein, comme passager et non pas comme acteur.
On va pas confier la mission au bleu.
Non, non, non. Et puis nous en aurions été parfaitement incapables. Et là, j'ai découvert la marche qu'il fallait que je franchisse pour pouvoir atteindre la compétence des gens avec qui j'étais. Je suis sorti très vite avec le chef de mission, très probablement pour une raison simple, c'est que le chef de mission avait besoin d'évaluer tout très vite le personnel qu'il avait recruté, et avec un observateur extrêmement confirmé, là j'ai vu tout de suite que nous étions au contact avec les forces soviétiques, puisque de chasseurs, nous étions parfois chassés, et vice-versa. Et la première mission, je m'en souviendrai toujours, c'est que nous sommes tombés sur une zone de bivouac de l'armée soviétique, nous sommes rentrés dedans, et il a fallu en sortir, et l'observateur, alors que nous étions en train de sortir avec le conducteur, qui était un sergent du 13e régiment de dragons parachutistes, une unité à l'époque comme maintenant spécialisée dans l'enseignement, mais qui envoyait uniquement des jeunes sergents qui étaient uniquement conducteurs, chacun était dans son rôle, chacun était dans sa mission comme un vrai équipage, et pour moi ça a été une expérience unique. Ma seconde expérience a été une mission particulière, et on en parlera peut-être, qui s'appelait Local, avec un sous-officier extrêmement confirmé, qui était un sous-officier qui avait fait déjà deux séjours à la mission militaire, et pendant 24 heures nous avons tourné. Lui n'était pas fatigué, moi j'étais épuisé, et je me suis dit il va falloir que je tienne le choc et que je devienne aussi compétent qu'il l'est, et donc pendant 6 mois j'ai bossé comme un fou. Vraiment, hein, vraiment. C'est-à-dire sur des documents, sur des notes de renseignement que j'ai lues, relues pour les comprendre, etc. Tout en apprenant, tout en faisant des sorties sur le terrain intensives, de manière à bien voir par où il faut aborder un objectif, comment on peut échapper à des suiveurs. Voilà.
Et justement, ce que j'allais dire, c'est pour... Parce que, bon, vous aviez des laissés-passer, mais... Vous passiez bien une redoute, pour entrer dans le territoire de RDR. Donc ma question, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas tout le temps quelqu'un pour vous coller aux fesses et pour vous voir ce que vous cherchiez à voir, etc. Comment est-ce que, mine de rien, vous bénéficiez à l'époque d'une certaine liberté sur le territoire est-allemand?
Ce dont on usait et on abusait, c'était des missions de déception. En fait, ce qu'on a fait de la déception, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'aller à un endroit alors qu'on veut se rendre à un autre. Et puis, l'Allemagne
c'est quoi,
de
vous
l'Est...
Vous partiez faire juste un petit
tour. Sur des missions particulières, on pouvait partir de nuit, par exemple. Bon, c'est difficile de suivre une voiture de nuit parce qu'il y a les phares, parce que... Voilà. Et puis, on prenait des itinéraires que nous connaissions par cœur. Par exemple, on quittait les autoroutes d'Allemagne de l'Est, et en Allemagne de l'Est, il y avait des autoroutes, on ne prenait pas les sorties habituelles, on prenait des pistes. Les forêts sont vastes en Allemagne de l'Est, on peut s'y perdre, on peut rester 3 heures totalement planqué en attendant que ça se passe. On avait des mouchards dans nos voitures en mission en RDA, c'est-à-dire qu'on entendait nos suiveurs, on avait la fréquence des suiveurs qui essayaient de nous rechercher, donc on pouvait déterminer combien de voitures étaient derrière nous. Et puis il y a des missions où c'était relativement calme aussi, hein. Ils n'étaient pas tout le temps, parce qu'ils n'avaient pas forcément tout le temps les moyens pour suivre une voiture telle que la nôtre avec des professionnels tels que nous étions. Il fallait au minimum 4 voire 5 voitures pour nous suivre. Des voitures qui précèdent, des voitures qui couvrent un certain nombre d'itinéraires. Et puis, ils ne pouvaient pas savoir forcément quel objectif on allait voir ou quel type de manœuvre on allait voir. Donc, il y avait toujours une possibilité d'échapper à nos poursuivants. Mais maintenant que l'on a accès aux archives de la Stasi, on s'aperçoit finalement qu'on découvre nos missions vues par l'œil adverse, et on s'aperçoit que finalement, ils faisaient quand même pas mal leur travail, et ils nous observaient quand même pas mal, puisqu'on récupère des photos de la Stasi qui sont en train de nous photographier ou de nous voir, alors que nous, on ne les voyait pas. Mais voilà, on pouvait quand même effectuer un certain nombre de missions sans trop avoir cette présence constante. Alors, il y avait des villes où on savait que la Stasi était particulièrement plus influente, Karl-Marstadt, Leipzig, Halle. Dès qu'on s'approchait des objectifs d'Allemagne de l'Est, ils étaient beaucoup plus sur les dents, parce que c'était leur pays. On y reviendra très probablement.
Et comment ils le savaient? Si, je voulais dire, si vous suivez, là, c'est le moment où ils commençaient à s'énerver.
Absolument, parce qu'on avait tendance aussi à observer. Eux avaient avaient tendance plutôt à protéger leurs propres objectifs allemands d'Est, de la National Volksarmee.
Vous voulez dire par rapport aux objectifs de l'armée, aux forces soviétiques prépositionnées, voilà, ils s'en foutaient, ils s'en foutaient pas, les convois soviétiques, ça les préoccupait moins.
Oui, les convois soviétiques, ça les préoccupait moins, puisque d'une certaine manière, l'occupant était soviétique chez eux. Même si en Allemagne de l'Est on ne parlait pas de réunification allemande, on en parlait uniquement à l'Ouest, cette tendance quand même des Allemands de vouloir se réunifier n'avait pas disparu. C'est tout à fait légitime, c'était quand même relativement le même peuple. Donc il y avait effectivement, lorsque on approchait des objectifs dits de l'Allemagne de l'Est, ils avaient parfois tendance à être un peu plus présent et de manière à nous dissuader à faire nos observations.
Alors justement, ça pose la question du métier. Enfin, vous en avez parlé un peu dans votre deuxième mission, mais ce que vous indiquez, je ne me rendais pas compte, c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'affilée au volant dans la même voiture sans bouger, la voiture bouge, vous en avez fait de la route, quoi.
Oui, on a fait de la route, on a fait beaucoup de route dans des conditions parfois difficiles, les hivers, et puis les routes de l'Allemagne de l'Est, dans le fin fond de l'Allemagne de l'Est, c'était des routes qui dataient de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des routes pavées, des endroits qui n'étaient pas pavés du tout, donc c'était des pistes.
Et vous aviez des bonnes voitures.
Alors on avait des bonnes voitures, on avait du matériel qui était relativement à la hauteur dans les années 70.
Vous aviez quoi? Vous avez dit tout à l'heure des Mercedes, c'est ça?
Oui, nous avions, alors au départ c'était des Opel, ensuite ça a été des Mercedes un peu modifiées, parce qu'on avait besoin d'avoir des voitures fiables et qui avaient une autonomie importante. Alors, pour dire un mot de ces voitures, parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes de la part de gens qui ne connaissaient pas la mission en ce qui concernait les voitures, on disait qu'elles étaient blindées, on disait plein de choses, des voitures de James Bond pour ceux qui avaient des
films. C'est amusant parce que si elles avaient été blindées, pour le coup, elles ne seraient pas allées très loin, parce que vu le poids du blindage, ça consomme énormément voitures blindées.
Donc on n'avait pas de voitures blindées, bien entendu, mais on avait des voitures renforcées sous le dessous de la caisse, parce qu'en prenant des pistes tactiques, et notamment des pistes chars avec une Mercedes, on passait en force, c'est-à-dire avec des pneus spéciaux, avec des amortisseurs renforcés.
Vous voulez dire dans les ornières et tout, il fallait
Oui, on pouvait suivre des blindés avec des Mercedes censés être fabriqués pour la route. Allez, on va prendre une comparaison un peu osée, disons que nos voitures étaient préparées pour le Paris-Dakar. Voilà. Donc, nous avions des réservoirs supplémentaires, un réservoir supplémentaire de 120 litres derrière le siège arrière. Nous avions des treuils, nous avions des câbles, des pelles, des réservoirs supplémentaires, des pneus supplémentaires. Et nous avions surtout un système électrique assez performant qui nous permettait de couper nos stops. De pouvoir
nos feux stop.
Alors ça offre un avantage, c'est lorsque vous êtes poursuivi, vous pouvez accélérer et arriver dans un virage à fond, freiner. Celui qui vous suit ne voit pas que vous freiniez, donc il y a quelques difficultés parfois à prendre le virage, la possibilité d'éclairer qu'un seul côté du véhicule, la possibilité d'éteindre la plaque. Donc en fait la plaque n'était plus identifiable puisqu'elle était dans le noir, la possibilité de tout éteindre et de progresser avec des lunettes de nuit puisque nous avions des lunettes d'intensification à la mission dès les années 70 et des jumelles de nuit. Donc on avait quand même des outils performants qui nous permettaient d'échapper à l'ensemble de nos poursuivants avec une connaissance extrêmement précise du terrain. Et c'était véritablement l'un des avantages que nous avions par rapport à d'autres, c'est-à-dire, y compris par rapport aux Allemands de l'Est, la connaissance extrêmement précise, vraiment précise, du terrain.
Et ça se fait avec les kilomètres.
Et ça se fait avec les kilomètres, et ça se fait par passation d'expérience. L'expérience s'est transmise, on dit qu'on n'arrive jamais à transmettre, les parents n'arrivent jamais à transmettre l'expérience à leurs enfants. Là, on était condamné à accepter l'expérience de l'autre, parce que sans l'expérience de l'autre, de celui qui avait déjà acquis une présence de 2 ans ou 3 ans, nous ne pouvions pas faire grand-chose au départ. Après, on se forgeait notre propre expérience. Mais cette mission, c'est vraiment la passation, si je puis dire, d'expérience d'équipage à d'autres, d'anciens à de plus jeunes.
Ça vous est resté, cette capacité à faire de la route? Ou au contraire, vous ne pouvez plus voir une voiture en
photo? J'adore conduire, moi. J'adore. Alors, il y a des camarades qui détestent conduire, mais je n'ai pas que conduit, j'ai observé aussi. Hein, mais,
non, mais bon, le côté rester statique.
Oui. Oh, ben, j'ai perdu quelques points de permis. Oui, parce que c'est difficile ensuite de revenir dans des conditions normales. Vous n'aviez pas évoqué tout à l'heure le fait que je suis parti en Pologne. En Pologne, c'était un peu la même chose, hein, que le même genre de mission.
Mais, ça, on peut préciser, ce sera à votre poste suivant.
Oui,
après
la MMFL. Non, moi j'adore conduire et j'ai gardé de fort mauvais réflexes.
Alors, il faut dire un mot peut-être maintenant de... C'est-à-dire, vous êtes en permanence un peu sur la corde raide. C'est-à-dire, vous avez le droit de circuler, et en même temps, on vous chasse, et en même temps, vous avez le droit de faire ce que vous faites, dans une certaine mesure. Et en même temps, si quelqu'un vous tire dessus, vous pouvez mourir dans votre bon droit aussi. Enfin, ça change pas beaucoup les choses, in fine. Ce que je veux dire, c'est que le danger, vous avez beau avoir des laissés-passer, le danger, il est réel. Hein. Et notamment, dans cet entre-deux, il y a une pratique qui est tout à fait intéressante, dont j'avais pas conscience, et qui est le piège dans lequel vous essayez constamment de pas tomber, c'est le blocage. Alors, expliquez-nous ce qu'était le blocage, ce fait de se faire bloquer, et pourquoi et comment ça se produisait.
Oui, Le fait d'aller au contact et d'aller observer de très près du matériel militaire et notamment des convois nous mettait dans la capacité d'être arrêté par un certain nombre de véhicules qui tout à coup s'apercevaient que ceux qui étaient en train de les regarder ne faisaient pas partie de leur propre armée, même si nous étions en caractère cyrillique, même si nos plaques étaient en caractère cyrillique. Et puis les consignes étaient extrêmement bien données pour auprès des soldats et auprès des subalternes de l'armée soviétique et de l'armée de est-allemande afin de nous empêcher de faire ce travail d'observation. En fait, la qualification d'espion, elle nous a été donnée par les forces adverses. Hein. Nous ne nous considérions pas comme des espions. On ne faisait pas pour nous, on faisait du renseignement. Alors, le terme entre la sémantique renseignement-espionnage, on pourrait en deviser pendant des heures.
Bon, ça, on peut le dire. On a fait récemment un podcast avec Romain Mielcarec qui disait globalement, un espion, c'est quand on est espion quand on se fait gauler. Quand on reste relativement discret, on est un agent de renseignement. L'espion, c'est celui qui se fait prendre.
Oui, moi je crois que c'est une excellente définition qu'on peut reprendre à notre compte. Oui, tout à fait. Donc nous sommes des espions, et d'ailleurs dans un dossier, vous le verrez. Donc empêcher un véhicule de bouger, ça veut dire effectivement contrarier la mission, en fait contrarier le fait et l'observation. Je peux peut-être citer un exemple, c'est peut-être le plus simple. Hein. C'est au cours d'un local, c'est-à-dire une mission très spécifique des 60 km autour de Berlin, dont la mission première était de donner l'alerte pour les troupes étant à Berlin-Ouest. Et ces missions-là ont duré...
C'est-à-dire donner l'alerte ?
Donner l'alerte, c'est-à-dire la mise en alerte des troupes dans le cas où il y aurait des intentions d'envahir Berlin-Ouest. Nous sommes en pleine guerre froide, hein, faut le rappeler.
Donc vous voulez dire vous faites un tour du coin pour voir s'il n'y aurait pas des dizaines de blindés qui
débarquent. Alors le tour du coin, c'est 60 km de rayon, 1200 km en 24 heures à peu près, hein, lorsqu'on fait une mission complète. C'est moins lorsqu'on voit beaucoup de choses qui bougent, parce qu'on va rester statique dans une région. Mais c'est vraiment regarder au nord de Berlin, regarder à l'est, regarder à l'ouest, regarder au sud, regarder les objectifs qui sont près de Berlin. Berlin, c'était deux divisions d'armée soviétique à une vingtaine de kilomètres de rayon, une division de fusiliers motorisés et une division blindée. Et puis c'était une division de l'armée est-allemande. Donc ça fait quand même du volume, beaucoup, beaucoup de volume. Donc il y avait beaucoup de choses à regarder. Les gares, regarder s'il y avait des plateaux en gare, ce qui était un indice d'alerte, voir quels étaient les mouvements d'unité, où est-ce qu'elles se rendaient. Bon. Au cours d'une de ces missions qui durait de 15 heures le jour 1 jusqu'à 15 heures le jour 2, j'arrive au pont des espions du côté ouest, et là je vois une voiture américaine qui est de la mission militaire américaine qui est garée, qui me fait signe, donc je me gare, et l'officier américain, qui est un officier de l'armée de l'air, me dit il y a énormément de jalonnage sur Berlin, sur la partie Berlin Potsdam Jüterbog, très probablement il y a des unités importantes qui vont bouger.
Préciser, qu'est-ce que
alors
c'est,
le jalonnage, c'est un peu la mission des gens du train chez nous, qui consiste à orienter les véhicules à un carrefour de façon à ce qu'ils ne trompent pas de carrefour. Alors c'est d'autant plus important dans l'armée soviétique que les soviétiques, par définition, sont des Russes, et que les Russes lisent les caractères cyrilliques. Mais ils sont incapables de lire les caractères et les noms des villes en Allemagne. Et vice-versa pour nous, si on était, il faut se mettre à leur place. Donc les jalonneurs sont absolument indispensables. L'avantage d'être...
Donc, en gros, ils plantent des panneaux en cyrillique.
Alors, ils ne plantent pas des panneaux, mais ils orientent. Ils se mettent au milieu de la route. Alors, ils ont... J'ai mis une photo dans le bouquin. Ils ont des catadiopres de manière à ce qu'on les repère de nuit. Ils sont habillés de cuir. Ils ont un casque avec des bandes. Enfin, voilà. Ils sont facilement repérables. Et donc, le fait qu'il y ait des jalonneurs qui sont mis en place veut dire que des mouvements d'unité vont s'effectuer. Donc l'équipage américain, l'officier américain me dit qu'il y a des jalonneurs à tel et tel endroit, je m'y rends, je récupère mon sergent parce que là je suis seul à Berlin-Ouest. En fait je vais récupérer mon sergent qui se trouve au villa de Potsdam. Je récupère mon sergent et on met en place, qui se met au volant, et on met en place notre matériel de mission. Alors il faut imaginer une Mercedes où il y a des rideaux. J'ai décrit tout, il y a un instant la Mercedes, et à mes pieds il y a un magnétophone, entre mes jambes il y a un micro, entre mes jambes et à gauche il y a les appareils photo, et on est parti pour 24 heures. Et très vite, je me trouve effectivement sur le jalonnage. Je remonte un convoi d'un bataillon de BTR que j'identifie comme appartenant à la 35e division de fusiliers motorisés de la garde. Et je me dis, oui, ça bouge beaucoup, vraiment beaucoup, d'autant plus qu'il y a des éléments logistiques qui sortent des merlons. Alors les merlons, ce sont des choses pour protéger les camions qui sont chargés avec des obus. Je me dis, là, c'est vraiment sérieux. Et je vois que les unités sont en parage guerre, et je commence à me dire que la mission va être longue.
Et c'est quand ça?
C'est en 1982.
Je veux dire, ça répond pas à un moment de tension particulière.
Non, et on n'a pas le temps de parler des tensions, de la guerre d'Afghanistan, de l'état de siège en Pologne, qui ont des répercussions sur... il faudrait faire une émission, une autre émission, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui se passait à l'extérieur avait des répercussions sur la tension qu'il pouvait y avoir en Allemagne de l'Est par rapport aux missions. Donc je me dis, il faut que je ne peux pas continuer à circuler. Vous voyez, quel est l'avantage, comment on peut peser le prise de risque, on ne peut pas tout faire en même temps. Et je me dis, je vais me mettre dans un endroit, le seul endroit que je connais entre Wustermark, qui est une gare, et Potsdam, de manière à voir quel type d'unité, si vraiment toutes les unités fonctionnent. Je me mets en caponnière. Alors, en caponnière, c'est se mettre dans une piste à reculons, de manière à observer les véhicules qui passent dans... Et les décompter de l'arrière, et puis commence effectivement un décompte assez important, et puis tout à coup je vois remonter un BRDM-1 de reconnaissance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un engin blindé de reconnaissance, dans l'autre sens, et je me dis, il y a une chance sur deux pour qu'il m'ait repéré.
C'est-à-dire sur la piste, vous êtes mis sur la piste en marche arrière,
sur la route, et lui est repassé sur la route sur laquelle était... le convoi, les convois, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsqu'on observe de l'arrière, on est peu visible, mais lorsqu'un véhicule remonte de l'avant, c'est-à-dire face à vous, on peut être visible. Donc je commence à avoir des doutes en me disant que...
C'est plus facile de voir un truc dans son pare-brise que dans son rétroviseur.
Évidemment. Donc je commence à dire à mon sergent, prépare-toi. Je lui montre l'itinéraire éventuellement de variantement que l'on peut avoir. Et tout à coup, on entend des cris derrière nous. Il y a des soldats qui ont probablement débarqué et que j'avais pas vu d'autres véhicules. Un Zil 131 coupe la piste. Je suis menacé par...
C'est quoi un Zil 131?
Un Zil 131, c'est un gros camion, c'est un camion, tout simplement. Mais un Zil 131 atelier, il y a des treuils, il y a des choses comme ça. Un BRDM qui se met derrière. Et un BRDM, c'est un engin de reconnaissance, donc nous étions faits. Je dis à mon sergent, avant que le véhicule se mette devant, démarre. Bon, il cale c'est tout à fait naturel, probablement sous le coup de l'émission, de l'émotion. Et donc, on est menacé par des armes, Kalachnikov, Makarov. Il y a un moment de tension qui dure 5, allez, 1 minute, 2 minutes, mais ça peut être long lorsque vous êtes menacé avec une arme. Je souris parce que je me dis, ben, on est fait aux pattes, le mieux c'est de détendre l'atmosphère, c'est tout ce que vous avez à faire à ce moment-là. Les vitres sont frappées violemment. Et puis arrive un major qui calme un peu l'ensemble. Une couverture nous est mise sur le pare-brise. On attache le véhicule derrière au crochet. On attache le véhicule devant, parce qu'il y en a un crochet aussi devant, avec les câbles. On est fait, on est bloqué. Voilà. Et on attend. On attend quoi? On attend la libération. Et la libération ne peut venir que du commandement militaire soviétique, et non pas des unités qui vous ont bloqué. Et puis... je me suis dit
que vous avez la couverture sur le pare-brise, parce que
couverture sur le pare-brise, pour ne pas continuer à décompter le matériel.
Autant, ils maintiennent l'intégralité, ils ne sont pas mis à défoncer les vitres.
Non, ils ne sont voilà, ils ont quand même respecté le véhicule d'une certaine façon. C'est pas toujours le cas. Je cite des choses beaucoup plus compliquées. J'étais fait aux pattes, donc bloqué à 17h, à 17h30. Ils m'ont débloqué à 20h45. Tout simplement, c'était le temps que les convois passent. Ensuite, il y a un commandant de la SRE que j'ai cité, le service des relations extérieures, qui était chargé de relations, alors là du coup la liaison avec la mission militaire française de liaison, qui me demande de les suivre jusqu'à Potsdam, au siège de la SRE. À Potsdam, je descends du véhicule. Auparavant, les propusques des autorisations dont j'ai parlé tout à l'heure ont été récupérées. Et je m'en trouve dans un bureau où on commence à m'interroger en me disant que j'ai fait une erreur très grave en photographiant des matériels militaires, en enregistrant des choses, en faisant des choses, que des choses interdites, et on me demande de signer un AKT. Un AKT, ça veut dire une reconnaissance de responsabilité, en disant que j'ai fait erreur. Entre-temps, quelques conversations, en me disant que le chef de SRE avait appelé au téléphone mon propre chef, en lui disant que j'avais fait les pires choses. Alors moi, j'ai simplement dit, écoutez, je me suis garé là parce que c'était dangereux de continuer à rouler sur la route compte tenu du nombre de matériel qu'on pouvait croiser.
La sécurité
avant tout, le principe de précaution qui n'existait pas à cette époque, mais le principe de précaution avant tout, donc je n'ai fait que respecter les consignes, ne pas observer. Voilà.
Vous aviez peur de ce que vous pourriez voir si vous restiez là, vous vous êtes garé.
En plus, on s'est garé. Voilà. Et donc... passe sur les événements. Au bout d'un certain temps, on me libère et en me disant que ce serait peut-être bien que j'aille me dormir ailleurs ou me promener ailleurs qu'à l'endroit où j'étais auparavant, ce que j'ai pas fait. Voilà. Mais il y a des enseignements à tirer. Alors cet enseignement principal, c'est quoi ? C'est que ce genre de mission qui était effectuée par les missions militaires alliées avait essentiellement pour but, je l'ai dit, de mettre en alerte les troupes et de laisser des délais de mise en alerte des troupes à Berlin. Il est évident qu'en cas réel, si je puis dire, de menace sur Berlin-Ouest, les premiers prisonniers de la Troisième Guerre mondiale auraient été un équipage de la mission militaire française de liaison américaine, britannique ou française. Donc le fait que j'ai été libéré m'indiquait une chose importante, c'est que Berlin-Ouest n'était pas menacé. Voilà, c'est un peu le paradoxe de ce genre de mission. Il y a à la fois la mission générale, si je puis dire, de recherche du renseignement, il y a la mission de mise en alerte des troupes de Berlin dans des conditions particulières, car nous sommes en pleine guerre froide, et puis il y a le fait que, quelque part, on sait qu'on risque tout de même, on assume les risques, mais on risque quand même le risque suprême, celle de disparaître, au cas où véritablement la Troisième Guerre mondiale avait commencé. C'est une idée quand même qui nous effleure à un certain moment. Alors moi, elle m'a effleuré, peut-être que d'autres, ça ne leur a pas effleuré le cerveau, mais moi, oui, je me disais que finalement, on était à la fois très utile, d'une manière générale, tant que la guerre froide pouvait durer, mais finalement, si véritablement cette guerre froide se transforme en guerre chaude, nous étions probablement les premiers sacrifiés sur l'autel de cette guerre.
Et vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais justement, comment est-ce que ça s'articulait avec les autres missions ? Donc, il y avait l'équivalent américain, l'équivalent britannique. Est-ce que vous coordonniez ? Est-ce que vous coordonniez pas du tout ? Et d'ailleurs, soit dit en passant, ça pose la question aussi de ce que vous faisiez, parce que vous pouvez vous coordonner si on vous donne des tâches précises à faire, mais si vous partez un peu, pas au petit bout dans la chance, mais un peu, et ben là, il n'y a pas de coordination à avoir, il faut juste avoir des gens sur le terrain, quoi.
Alors, je vais commencer par la coordination, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Les trois missions ont toujours, de fait, coopérer d'une manière relativement franche et honnête. Il y a eu des périodes au cours de l'histoire, j'en citerai qu'une, c'est celle de l'élection de Mitterrand et de la présence de communistes au gouvernement français, c'était donc en 1981. Il y a eu pendant un certain temps une période froide entre les alliés chauds de la guerre des alliés occidentaux, parce que les Américains ne comprenaient pas très bien comment la France pouvait mettre des communistes au pouvoir alors qu'on était en Allemagne de l'Est. Et en fait, ils se sont très vite aperçus que les missions n'avaient strictement rien changé, que notre attitude n'avait pas changé et que Monsieur Mitterrand, était un allié aussi sûr que ses prédécesseurs, au moins sur le plan des grands équilibres mondiaux. Donc, à part cette période où il y a eu, des documents que l'on recevait quasiment pas ou qu'on les recevait avec retard, mais la plupart du temps, la coordination existait, notamment sur les grandes manœuvres. Il y a des manœuvres de printemps et d'autres manœuvres d'hiver, etc. Et sur les grandes manœuvres, on essayait de se coordonner avec les Britanniques et les Américains pour qu'il y ait toujours la présence d'un équipage allié sur des zones où il y avait des choses à voir. Notamment lors de la grande manœuvre, des grandes manœuvres qui s'appelaient Waffenbruderschaft. En fait, ce sont des grandes manœuvres d'amitié, de frères, les frères de l'Est du pacte de Varsovie. Je peux citer aussi un exemple, c'est en 1981, il faudra vérifier, je ne sais plus quelle est la date exactement, il y a eu une grande manœuvre en Allemagne de l'Est, une Waffenbruderschaft, où quasiment toutes les troupes du pacte de Varsovie avaient envoyé des éléments. Donc il y a eu une répartition des équipages alliés sur l'ensemble du territoire de la RDA de façon à couvrir, et notamment de couvrir ce qu'on appelle le retrait. C'est là où c'est intéressant, parce que la mise en place, elle se fait en général d'une manière échelonnée dans le temps, mais le retrait, toutes les unités vont retourner dans leurs unités, dans leur pays respectif. Et les Britanniques nous avaient accordé un lieu où nous étions certains de ne rien voir. Nos meilleurs alliés britanniques, qui étaient en nombre dans leur mission, puisque c'était la mission la plus importante, la seconde en termes de personnel, c'était la mission française, et la troisième en termes de personnel, c'était la mission américaine.
C'est étonnant, ça.
Alors, c'est étonnant, non. Je reviendrai après, de manière à ce qu'il y ait une cohérence dans ce que je dis. En fait, avec l'officier, on est sur une partie à deux. Nous avions décidé de nous mettre dans un endroit dans lequel nous n'aurions pas dû nous mettre, et on a pris un nombre de trains impressionnants avec des observations tout à fait intéressantes sur tous les pays du pacte de Varsovie, y compris la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. Alors pour revenir au fait que les missions étaient relativement déséquilibrées sur le plan du personnel, en fait ça c'est aussi un enseignement de l'histoire. Les Britanniques en Europe ont toujours, face à l'Europe de l'Est, et on le voit aujourd'hui en Ukraine, ont toujours été en pointe en ce qui concerne le renseignement face à l'Est. Ils se sont toujours intéressés au continent, les Britanniques. Même s'ils se sont intéressés à toutes les mers du globe au cours de l'histoire, le continent les a toujours intéressés. Les guerres napoléoniennes, qu'on s'en souvienne, les Britanniques, et enfin les Anglais à l'époque, étaient toujours présents, et l'ennemi c'était la France. Donc en fait, ils ont une culture du renseignement, qui est une culture du renseignement tournée vers le continent européen et vers l'Asie. Et donc vers la Russie.
Mais je ne suis pas étonné que les Britanniques aient eu beaucoup de monde. Je suis étonné que les Américains en aient eu si peu.
Alors les Américains ont fait confiance aux Britanniques. Parce que tout simplement, les Américains et les Britanniques, ce sont des frères d'armes. C'est la même culture. Et pourquoi mobiliser beaucoup de personnes alors qu'ils étaient certains de récupérer l'ensemble de la production du renseignement des Britanniques? Donc eux, ils ont mis, comme ils font souvent, l'effort sur les exploitants, sur l'exploitation du renseignement, un peu moins sur la présence en RDA.
Soyez en passant, puisque vous parlez de l'Ukraine à l'instant, ça vous fait quoi? Enfin, je veux dire, vous avez passé quand même plusieurs années de votre vie à scruter des matériels, des transports de troupes, des chars, etc., en Allemagne de l'Est, à les connaître sur le bout des doigts, autant qu'il vous était possible. Ça vous fait quoi de voir, y compris des matériels très anciens, dont j'imagine déjà au début des années 80, enfin je pense au T-62, T-64, c'est déjà pas la première jeunesse. Bon, ça vous fait quoi de les voir aujourd'hui sur des champs de bataille en Ukraine?
Alors d'une part, ça ne m'a pas étonné, parce que j'ai part aussi mes missions par la suite, et moi, le travail que j'effectue encore aujourd'hui suis tenu informé de l'évolution de l'armée russe, qui est issue de l'armée soviétique. Mais vous savez, il y a plusieurs façons d'évaluer la valeur d'une armée. Soit on commence à faire des comptes sur des tableaux Excel en disant il y a X chars, X canons, etc. Bon, ça c'est très bien, c'est un élément important, X navires, X avions. Mais en fait, ça ne donne pas, et on l'a vu, la valeur d'une armée. La valeur d'une armée, elle se mesure à la manière de laquelle elle est. À la façon dont elle est commandée, à la manière dont on peut évaluer ce niveau de préparation et ce niveau d'intégration des différents, et surtout aujourd'hui, entre l'armée de l'air, et entre le 3D et entre le terrestre. Donc lorsque j'étais en RDA, on faisait la mission d'observer essentiellement les matériels, mais on essayait aussi de comprendre comment cette armée-là, elle pouvait fonctionner. Très vite, on est arrivé au fait que... les Slaves, et notamment les Russes blancs, parce qu'il n'y a pas que des Russes blancs, ont des qualités importantes et des défauts rédhibitoires. Ce défaut, ces qualités, c'est la capacité à durer sur le terrain, parce que ce sont des gens qui sont issus de pays où il fait où la dureté du climat est la préparation à cette dureté est évidente. Hein. Ce que peut supporter un jalonneur par moins 20 degrés pendant une nuit entière, vous mettez le même occidental, ça va être un peu plus compliqué. Bah, lui, il allume un petit feu, il se débrouille, même si on ne lui apporte pas à manger, il va se débrouiller. Il va demander à l'habitant, ou alors il va voler une poule. Mais bon... Donc il y a cette partie capacitaire du matériel et cette partie où qu'il est difficile d'appréhender lorsqu'une armée n'est pas en guerre. Là, on a vu ce que l'armée russe valait sur le terrain face aux Ukrainiens. Et l'un des défauts les plus importants, c'est qu'il manque de corps intermédiaires, notamment de corps de sous-officiers. C'est une armée qui manque de sous-officiers, qui n'a pas de sous-officiers, qui n'a pas de corps intermédiaire. Et donc le commandement, il est officier directement homme. Or, le souci des officiers de l'armée russe était le même que le souci des officiers envers leurs hommes. C'est-à-dire, nul. Nul. Aujourd'hui, dans une armée occidentale, et notamment dans l'armée française, il y a ce souci de comprendre les besoins d'une troupe et de la commander par adhésion, non pas les commander par en appliquant un plan, en leur demandant d'aller faire une mission dont ils ne comprennent. On explique d'abord de manière à faire en sorte qu'il y ait de l'adhésion. Cette armée russe est incapable de faire en sorte que le soldat de base puisse adhérer à une mission puisqu'il ne se connaît pas à sa mission. Lors des premiers moments, lorsqu'ils sont arrivés par la Biélorussie en direction de Kiev, ils étaient en manœuvre, la plupart des troupes étaient en manœuvre depuis 2 mois ou 3 mois. On ne leur a pas expliqué qu'ils allaient faire une invasion. Hein. Pour la plupart, ils continuaient la manœuvre. C'est quand ils ont vu qu'ils n'étaient plus en Biélorussie, mais en Ukraine, qu'ils ont commencé à comprendre que la guerre et que des missiles anti-chars leur arrivaient, qu'ils ont commencé à comprendre. Comment voulez-vous qu'une armée fonctionne si on n'explique pas aux gens pourquoi ils font la guerre ?
Enfin, pour terminer, il faut dire que... Donc on a déjà parlé un petit peu des risques, bon, mais au sens large, quoi. Mais il faut dire que du risque, on est passé au danger, et du danger à un certain nombre de drames, notamment au sein des années 80, où là, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais vous expliquez très bien dans le livre que ça tient notamment à un fait qui est le fait que, bah, en fait, les Allemands de l'Est avaient commencé de plus en plus à vouloir avoir un contrôle sur leur propre territoire, et que, paradoxalement, enfin, pas ou pas, mais c'est eux qui étaient par moments beaucoup plus agressifs que les Soviétiques, et que ça a débouché sur un certain nombre de drames et de décès français, mais pas que français, d'ailleurs. Alors peut-être, dites-nous, parce que bon, vous êtes parti en 83, mais voilà, c'est comment est-ce que vous avez vu, en quelque sorte, cette évolution qui culmine dans les années 80.
Alors, lorsque j'étais sur le terrain, je n'ai pas ressenti directement ce genre d'évolution. C'est après, en étudiant les faits, en écrivant ce livre, mais pas seulement, en écrivant des articles, que je me suis aperçu que finalement, il y avait une certaine forme de légitimité pour les Allemands de l'Est, en tout cas ressentie en interne, de mettre la pression sur les missions, tout simplement parce qu'ils avaient un besoin de se faire reconnaître comme État. Or, les accords Noiret Malinine que l'on a évoqués brièvement tout à l'heure ne reconnaissent pas les Allemands de l'Est, et ne reconnaissent pas un État allemand de l'Est. Or, les choses, dans les 40 ans, ont évolué, puisque l'Allemagne de l'Est a été reconnue par les États européens, et dont la France, par les Britanniques aussi, et par les Américains. Donc l'État existe. Mais les missions militaires sont restées figées dans une Europe post-immédiatement Seconde Guerre mondiale, qui a rangé les deux côtés, parce qu'on n'a pas évoqué, mais les missions militaires soviétiques de liaison étaient aussi en RFA. Donc, parce que cet équilibre, ce donnant-donnant, cet accord de réciprocité faisait qu'effectivement les Russes étaient à l'ouest et les Occidentaux étaient à l'est, faisait que chacun trouvait des avantages à maintenir ce genre d'accord. Mais les Allemands de l'Est étaient en dehors de tout. Donc il fallait bien à un moment donné qu'ils disent, nous on veut bien, mais on est chez nous, il n'y a aucune raison que les missions militaires continuent à faire ce qu'elles font, surtout sur nos propres forces. Donc je pense qu'il y a eu une montée, une prise de conscience, alors ça c'est une théorie qui est la mienne, et que je défends, et dont j'en prends la responsabilité, peut-être que d'autres ont une appréhension un peu différente, mais moi je pense que c'est un élément extrêmement important pour expliquer ce durcissement des Allemands de l'Est envers les missions.
Alors comment ça va se manifester ?
Alors ça va se traduire à un certain moment par, notamment dans les années, début des années 80, fin des années 70, début des années 80, par des blocages de plus en plus violents, et par un blocage organisé par la Stasi, qui a amené un équipage à être bloqué un peu plus violemment que les autres. Mais il y avait des signes, hein. Je montre des photos et je montre des événements avant.
C'est pas très radiophonique, mais les voitures sont bien cabossées quand elles rentrent.
Oui, elles sont pas mal cabossées. Donc il y a des raisons, il n'y a pas que des accidents de la route. Disons que la plupart du temps, ce ne sont pas des accidents, ce sont des accidents provoqués. Ce qui permet de camoufler éventuellement l'intention, évidemment. Et là, nous perdons notre premier adjudant-chef, qui est l'adjudant-chef Mariotti, Philippe Mariotti, donc, qui est tué sur le coup, avec un blessé grave qui est le capitaine Staub de l'époque, qui est général maintenant à la retraite, et qui est blessé grièvement, et un observateur qui est blessé légèrement. Donc c'est effectivement... Alors, je le décris dans le livre, qui... dirige cette mission, comment, quel organisme de l'Allemagne de l'Est a décidé d'eux, comment ça se passe et pourquoi ils le font. Donc on a eu un mort, et un an plus tard...
Disons-le, ils se font... Bon, on ne sait pas s'ils essayent de passer quand ils sont sur le point de se faire bloquer, mais enfin bon, ils sont rentrés dedans, et c'est une voiture qui fait plusieurs tonneaux.
Oui, en fait, non. La consigne dans ce genre de choses est de ne pas se faire bloquer. Alors il y a une espèce d'évaluation, et il faut pas mal de chance, on n'a pas toujours de la chance. Si le véhicule avance et que vous avancez en même temps, il y a un moment donné où la règle géométrique fait qu'il y a percussion ou il n'y a pas percussion. La plupart des percussions peuvent être des percussions relativement fortes, mais sans mettre en danger l'équipage. Là, il y avait intention de tuer. Et donc l'Oural 375, au lieu de s'arrêter lorsque la voiture est montée dessus, et la voiture s'est encastrée sous l'essieu de l'Oural 375. L'Oural 375, c'est un gros camion, hein, avec des roues énormes. Et donc l'adjudant-chef Mariotti a été tué sur le coup. Ce qui est intéressant, entre guillemets, dans cette affaire, c'est en fait les tenants et les aboutissants. Comment on en est arrivé là, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on peut dire que le commandement français a été exemplaire dans cette affaire, il a fait ce qu'il a pu, le politique a été lamentable. Lamentable. Tout simplement parce que le politique ne voulait pas faire de vagues. À tel point que cette affaire est restée plus ou moins, devait rester plus ou moins, non révélée, Alors que la presse commençait à raconter des choses parce qu'ils avaient entendu, la presse fait son métier, hein, donc avaient entendu qu'un accident avait eu lieu et qu'il y avait eu un mort, donc les fantasmes sont arrivés, des contre-vérités aussi. Mais les Alliés, et les Américains notamment, ont fait en sorte que ce soit rendu public. Voilà, donc il y a le commandement militaire qui a fait son job, qui a protégé la famille, et qui a fait tout ce qui était en son possible à l'époque, de manière à régler ce problème, y compris les protestations de haut niveau auprès des différentes forces, les Alliés qui ont protesté ensemble, mais le politique est resté en retrait. Voilà. Alors, ça aurait pu changer en disant, effectivement, on va tout changer. D'autant plus qu'un an plus tard, si vous me permettez d'en parler, il y a eu le major Nicholson qui s'est fait tuer par balle.
Donc un Américain.
Dans des conditions aussi particulières, là je ne révèle pas dans le détail, mais dans un précédent bouquin que j'avais révélé, cet officier, souvenez-vous, on a dit il y a un instant que les Américains étaient peu nombreux, mais ils avaient l'avantage d'être orientés d'une manière extrêmement fine par la CIA et la DIA, donc ils avaient des missions très particulières. La mission là de Nicholson, c'était d'aller photographier l'intérieur d'un T-80. Qui était repéré à Horstedt dans un garage.
Donc un char neuf à l'époque.
C'est un char neuf à l'époque, le T-80, que l'on voit en Ukraine, hein, qui est le BVM1, etc., qui est légèrement modifié. Mais les consignes avaient été données pour qu'évidemment la Sentinelle... Alors la Sentinelle a tiré. Alors la Sentinelle a fait son métier, paraît-il. Le sergent qui était le conducteur du major... n'a pas pu sortir de la voiture et l'officier est mort sous ses yeux car il n'y a pas eu de point de compression à l'endroit où il fallait qu'il fasse et donc il est mort ainsi. Voilà. Les conséquences là ont été complètement différentes puisque c'est monté au niveau de la présidence des États-Unis et il y a eu une protestation officielle et une tension diplomatique extrêmement forte. Deux manières de régler les cas. Alors, après, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que les missions devaient être supprimées ? Il y a eu une tentation de la part des Américains de supprimer les missions, mais sous la pression des Britanniques et des Français, on a maintenu, on a dit non, tant que les Russes en veulent, on va rester, parce que nous étions dans les années 80, et dans les années 80, il y a eu une espèce de recrudescence de la tension lors de la guerre froide. Donc il était important que l'on laisse en place les missions. Voilà, c'est ainsi qu'on est arrivé jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991.
Et bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ces missions ? Alors, il en reste une expérience de renseignement qui... Alors, on peut préciser qu'à l'époque, la DRM, donc la Direction du Renseignement Militaire, n'existait pas en France. Et je vous ai indiqué dans le bouquin, je passe un peu vite, mais parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il y avait des problèmes d'organisation, quoi. Il y avait un certain cloisonnement entre services et que la DRM a permis, la création de la DRM a permis de résoudre dans une certaine mesure, mais voilà, d'une manière générale, comment est-ce que ça a changé les manières de faire du renseignement militaire, puis aussi quels souvenirs on a de ces missions et des gens qui les ont faites.
Oui, moi j'ai quitté l'armée en 1991. Je me suis dit, bon, j'ai passé une certaine période et j'avais ressenti à l'époque, effectivement, au niveau où j'étais, notamment en ambassade à Varsovie, j'avais ressenti quels étaient les problèmes que l'on ressentait véritablement dans l'organisation du renseignement en France et notamment de l'armée de terre. Le cloisonnement important, le fait qu'il y avait beaucoup d'organismes disparates qui toutes essayaient de faire leur job mais qui avaient des moyens extrêmement réduits. Lorsque le BRERI, par exemple, le Bureau de renseignement international qui a été dirigé par le général Magnifica qui préface mon livre et que je remercie parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît le renseignement. On n'est pas ici pour dire ce qu'il a fait, mais ceux qui s'y intéressent peuvent regarder. Lui aussi a ressenti à des niveaux élevés les problèmes. Et on a souvent discuté. Vous savez, il y a plusieurs niveaux dans l'armée. Il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont à la fois sur le terrain, mais qui ensuite, par le fait de la hiérarchie, ont ensuite des responsabilités. Et on s'aperçoit que même ceux qui ont des responsabilités n'ont pas pu changer grand-chose à l'époque. le CERM, le Centre d'exploitation du renseignement militaire, le SGDN, le secrétaire général de la défense nationale de l'époque, le Bureau de renseignement international, le 2e CA, 2e corps d'armée, Centre de renseignement avancé, tous ces organismes disparates, la FATAC, le MM Marine 2e bureau, les 2e bureaux des différentes forces, tout cela, tous ces gens-là, en fait, communiquaient peu et se parlaient peu. Pourquoi ? Parce que chacun, comme ça, c'est un peu culturel. En France, on aime bien séparer au lieu de rassembler. Alors la DRM, en fait, elle a été créée non pas à cause des missions, pas du tout. Ça a été à cause de la guerre du Golfe. À la guerre du Golfe, on s'est aperçu qu'on était quand même totalement, excusez-moi du terme, à la ramasse. Donc il fallait faire quelque chose, y compris le 13e RDP. Donc voilà, donc on avait besoin, on avait des choses fortes. On avait un régiment extrêmement important dans la recherche du renseignement, qui était un régiment qui lui-même s'auto-entretenait, qui était le 13e régiment de dragons parachutistes, qui existe toujours, fort heureusement, et qui fait un travail extraordinaire. Mais l'orientation se faisait plutôt vers l'Afrique. On le voit aujourd'hui, hein, la différence, hein, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle nous lâche. Hein, et qu'il se passe quand même quelque chose en Europe. Et donc la DRM avait aussi aujourd'hui des yeux plus vers l'Afrique. Mais là, encore une fois, le renseignement n'a de valeur que si... le renseignement est exploité et si le politique en tient compte. Si le politique ne tient pas compte du renseignement, ça ne sert à rien d'aller de renseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a aussi maintenant des moyens techniques qui n'existaient pas à l'époque. Imaginez-vous bien que les appareils photo, c'était des pellicules. Hein. Aujourd'hui, c'est de l'électronique. Imaginez-vous qu'on n'avait pas de GPS. D'ailleurs, on ne l'aurait pas utilisé, très probablement, s'il y avait eu le GPS.
Oui, ça ne paraît pas la meilleure
idée. Bon, on n'avait pas de téléphone portable. C'est quand même une époque où il y avait la carte, et puis l'intelligence des gens qui pouvaient s'en servir, et puis l'incapacité de pouvoir appeler au secours dans les minutes qui suivent. Vous avez un accident, vous aviez un problème, même tout seul, de nuit, il ne pouvait se passer rien du tout. Je dis bien rien. On ne pouvait pas appeler le 17, on ne pouvait pas faire le 17. Hein. Voilà. Donc ces éléments-là n'étaient pas pris en compte. Et aujourd'hui, l'évolution veut qu'effectivement, il y a des écoles de renseignement. Il y a l'école du renseignement de l'armée de terre, je ne vais pas en parler, c'est pas mon domaine, mais quand même, il y a une volonté aujourd'hui de pallier les insuffisances de notre renseignement, parce que le besoin est essentiel. Aujourd'hui, il y a les drones, il y a les moyens techniques, il y a les satellites, etc. Il faut absolument trouver une manière de traiter cette multitude d'informations. Et en fait, le problème, c'est on a trop d'informations, comment l'utiliser, et peut-être l'intelligence artificielle va, d'une certaine manière, pallier à ce genre de choses. Mais pour l'instant, il faut s'organiser et surtout sensibiliser les personnels à l'importance du renseignement, y compris les états-majors.
Dernière question pour terminer. Vous êtes retourné souvent en Allemagne de l'Est, enfin en ex-Allemagne de l'Est.
Alors, j'y suis. Alors, lorsque j'ai quitté l'armée, j'ai créé une entreprise à Berlin-Ouest. Donc, j'ai suivi le démontage des troupes soviétiques dans des conditions différentes, n'étant plus dans l'armée. Et puis après, j'ai fait quelques voyages, j'ai fait des voyages en Pologne.
C'est des coins qui vous manquent. Enfin, je veux dire, vous le disiez tout à l'heure, vous avez sillonné les forêts, les chemins, etc. Vous en aviez souffert.
Alors j'ai essayé, oui. 5 ans après ou 6 ans après, j'ai essayé de retrouver des points d'observation, des gares, des choses comme ça. Tout avait changé. Et fort heureusement, tout change. Alors on trouve encore des coins de forêt. On se dit, tiens, on a passé quand même des quelques nuits là et on a pu observer telle ou telle chose. Mais vous savez, il y a 400 et quelques personnels qui sont passés dans ce... depuis 1947 dans cet organisme. Il y a 200 personnes qui sont vivants. Il y a des gens qui continuent à toujours à penser cette période exceptionnelle qu'ils ont passée dans cette période de l'histoire et sur ce territoire particulier. Il y a aussi... je vais juste en toucher un mot. Hein. C'est le fait qu'il y a un manque de reconnaissance aussi de ces gens-là. Alors je parle pas pour moi, mais je parle pour tout le monde, pour tous ces camarades. Parce qu'on n'a jamais fait l'effort de reconnaître effectivement que ces gens-là ont pris des risques et qu'ils mériteraient la reconnaissance de la nation, ce qui a toujours été refusé jusqu'à présent.
Merci beaucoup, Roland Pietrini. Donc je vais rappeler les références du livre Les Sentinelles oubliées, le renseignement humain derrière le rideau de fer, paru aux éditions Pierre de Taillac. Merci beaucoup.
Merci.
C'est donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes et commentaires et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.